Selon un sondage qui a été publié au mois de mai dernier aux États-Unis, 2 personnes sur 5 pensent que la Terre a été créée par Dieu il y a moins de 10 000 ans. Le créationnisme est non seulement enseigné dans des écoles privées religieuses, dans plusieurs États, mais il dispose également de ses musées pour aider les croyants à développer leur argumentaire pour promouvoir cette conception du monde. Et au premier rang de ces arguments, eh bien, on retrouve le fait que la théorie de l'évolution est précisément une théorie.
Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, répond au journaliste Chris Matthews en 2009.
Do you believe in evolution, sir?
Est-ce que vous croyez à l'évolution?
Si je crois à la théorie de l'évolution, oui, j'approuve le fait que Dieu créa le paradis, la terre, les mers et tout ce qu'il y a dedans.
Bonjour Jean-Baptiste André.
Bonjour.
Vous êtes évolutionniste, chercheur CNRS dans le département d'études cognitives à l'École normale supérieure. L'actuel vice-président américain Mike Pence déclarait en 2002, lors d'une audition devant le Congrès, « Darwin n'a jamais pensé l'évolution autrement que comme une théorie, donc je voudrais simplement et humblement demander, ne peut-on pas l'enseigner comme tel et envisager aussi d'enseigner d'autres théories sur l'origine des espèces ?» Donc je vous le demande, puisque la théorie de l'évolution est une théorie, ça veut dire qu'elle peut être réfutée.
Alors, à strictement parler, oui, ça veut dire qu'elle peut être réfutée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le sens exact qu'on entend par le mot théorie en science. En science, on a simplement deux grands types d'objets. On a des observations directes ou expérimentales, donc des observations, des faits qu'on observe, et des théories. Les théories, on les appelle des théories parce qu'on ne les observe pas directement, mais on en observe des conséquences. Et la théorie de l'évolution est une théorie exactement au même sens que la théorie de la gravitation universelle, que la théorie que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Ni plus ni moins, exactement dans ce sens-là. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, on peut prendre un exemple un peu naïf de la vie de tous les jours. Si vous avez perdu vos clés et que vous les retrouvez sous un banc où vous êtes assis dans la journée, vous en inférez la théorie selon laquelle vos clés sont tombées de votre poche au moment où vous étiez assis sur le banc. Vous ne l'observez pas directement cet événement, mais c'est l'observation de vos clés sous ce banc qui vous permet de déduire avec une quasi-certitude que cette théorie est vraie. Mais ça reste une théorie. Après tout, vos clés, elles auraient pu tomber complètement ailleurs et être déménagées par quelqu'un volontairement, mais c'est juste extraordinairement improbable. Donc la théorie selon laquelle elles sont tombées de votre poche est très très vraisemblablement vraie. La théorie de l'évolution, c'est pareil.
Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, quelles sont les observations qui conduisent à dire que la théorie de l'évolution est la bonne théorie, ou en tout cas la seule théorie plausible aujourd'hui scientifiquement?
Premier argument, il est évident, tout le monde le connaît, c'est l'argument des données fossiles. Et il faut réaliser à quel point ces données nous disent quelque chose de fort. Comme je vous l'ai dit, l'évolution, on ne l'observe pas directement. C'est un processus qui s'est produit pendant des millions d'années dans le passé. Mais on observe des traces. La présence des espèces anciennes qui ont disparu aujourd'hui a laissé des traces qu'on appelle les fossiles. Et ces fossiles nous permettent de reconstruire, un peu comme si vous preniez des photos dans un film. Vous prenez quelques images dans un film, vous n'avez pas tout le film, mais vous avez quelques images, et grâce à ces quelques images, vous pouvez reconstruire le film, l'histoire du film. Et vous prenez n'importe quel groupe vivant actuel, je ne sais pas, par exemple, prenez les chevaux, et bien vous observez, dans des couches géologiques datées de environ 50-60 millions d'années, vous observez les ongulés, qui étaient vraisemblablement des espèces ancêtres des chevaux actuels, ou proches des ancêtres des chevaux actuels, qui avaient 5 doigts et non pas un seul, qui avaient un museau plus court que les chevaux actuels, qui avaient un proto-sabot. 10 millions d'années plus tard, dans les couches suivantes, vous observez d'autres ongulés un peu plus grands, qui avaient plus que 3 doigts, et un gros doigt central qui ressemble de plus en plus à un sabot, et puis, etc., etc., jusqu'à un ongulé de la taille d'un poney, avec un gros sabot, etc. Donc vous reconstituez cette histoire comme un film. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous avez aucune incohérence dans l'histoire que nous dit les fossiles. C'est pas comme si on ne trouve aucun fossile d'équidés modernes dans une couche géologique d'il y a 50 millions d'années. C'est pas comme si on en trouvait un de temps en temps par erreur. Non, zéro, aucun. Souvent les gens disent que la théorie, enfin les créationnistes disent que la théorie de l'évolution n'est pas falsifiable. C'est complètement faux. En fait, il suffirait, pour prendre un exemple que prend Richard Dawkins, il suffirait qu'on trouve un lapin au paléozoïque pour complètement falsifier, mettre à bas la théorie de l'évolution. Mais on en trouve zéro. On ne trouve jamais d'Homo sapiens dans une couche géologique d'il y a 60 millions d'années.
Les créationnistes disent aussi, ces espèces-là, elles existaient, elles étaient sur l'arche de Noé, et elles se sont noyées, c'est pour ça qu'on ne les voit plus aujourd'hui. Les fossiles qu'on trouve sont des fossiles d'espèces qui ont disparu, comme les dinosaures, qui ont été noyés par le déluge. Alors, pourquoi est-ce que ça ne tient pas à ça?
Si c'était ça qui était arrivé, on aurait une probabilité infinitésimale de pouvoir reconstruire à partir des couches géologiques qu'on est capable de dater avec une grande précision, avec des techniques à la fois de géologie et de physique, on aurait une probabilité infinitésimale de reconstruire une histoire cohérente. Précisément, si toutes les espèces sur l'arbre de Noé étaient tombées d'un seul coup et s'étaient fossilisées un peu partout, bon, on trouverait une histoire qui n'a pas de direction, qui n'a pas cette cumulation de modifications petit à petit qui nous fait aller d'un petit ongulé à cinq doigts à un très grand ongulé à un seul doigt.
Pour parler d'Homo sapiens, qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que Homo sapiens n'a pas été toujours Homo sapiens de tout temps et que nous sommes bien liés à d'autres espèces comme les Australopithèques, comme Lucie?
Encore une fois, ici, les données fossiles qui sont fondamentales. On trouve aucun Homo sapiens. Le nombre de gens qui ont cherché des fossiles de dinosaures au Jurassique, 60 millions d'années, un peu plus. Il y en a un nombre incroyable de ces fossiles qui ont été trouvés. Pourquoi on n'a jamais trouvé un seul, ne serait-ce que petit os d'un Homo sapiens moderne avec ses fossiles? Jamais. Bon, ça c'est un premier argument. Maintenant, je voudrais passer à un deuxième type d'argument qui est important et qui est relié à ça, c'est les données génétiques. Ces données génétiques, ce qui est extraordinaire, c'est que Darwin ne les avait pas, ces données. C'est des données qui sont la plus grande avancée récente en biologie de l'évolution. Ben, quand on regarde l'homme et le chimpanzé, on partage énormément de nos gènes, 98%. L'homme et, je sais pas, le chien domestique, on en partage beaucoup, mais moins. Les chiens domestiques entre eux, par contre, en partagent beaucoup, et beaucoup avec le loup. Exactement tout ce qu'on attendait. Et si on vous regarde, vous, avec les plantes à fleurs, ben, on partage encore moins, 35% à peu près de notre génome. Exactement ce qu'on prédit si la théorie de l'évolution est vraie.
Une question, est-ce que cette théorie de l'évolution, est-ce que l'évolution, on peut la constater aujourd'hui empiriquement?
Alors, complètement. Ça, c'est un autre point dont je voulais parler. L'évolution est un phénomène qui est lent, mais lent à l'échelle de la vie humaine seulement. Il n'est pas lent du tout à l'échelle géologique. Il est même rapide à l'échelle géologique. Et parfois même à l'échelle de la vie humaine, on arrive à le voir. Demandez à des médecins à l'hôpital, en milieu hospitalier, les problèmes de résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Les antibiotiques qui sont apparus, les premiers antibiotiques, c'est à moins de 100 ans. La pénicilline, moins de 100 ans, 90 ans. Il y a des familles d'antibiotiques qui sont beaucoup plus récentes que ça. Et bien, il y a des bactéries qui ont déjà évolué, sous l'effet de la sélection naturelle, une résistance à ces antibiotiques. Premier exemple. Il y a des exemples encore plus frappants parce que c'est des organismes qu'on comprend mieux, par exemple, intuitivement. Par exemple, un exemple connu, c'est celui d'un petit lézard en Croatie. Un petit lézard en Croatie qui a été introduit dans les années 70 sur une nouvelle île dans laquelle il se trouvait pas, à partir d'une autre île. J'ai oublié les noms, ils sont... C'est compliqué à prononcer. Ce petit lézard, sur l'île d'origine, il était insectivore. Il mangeait des insectes. Il arrive sur une nouvelle île, il y a 70 ans, il y a 5 lézards. On sait exactement, il y a 5 lézards qui sont arrivés, on sait pourquoi. Sur cette nouvelle île, ils doivent manger des plantes. Il est herbivore. Et ce qu'on observe 40 ans plus tard, on observe que c'est les descendants de ces lézards-là, génétiquement, mais qu'ils ont un grand nombre de modifications qui ont été accumulées au cours de ces 40 ans, à peu près 40 générations en étant conservatifs. Ils ont des adaptations à leur nouveau régime alimentaire herbivore. Ils ont une mâchoire plus développée, ils ont une capacité de mastication plus grande, ils ont un tube digestif plus long, avec une valve cécale, ils ont un comportement moins territorial, ils ont même des modifications comportementales. Et donc ça en 40 ans. 40 ans. Si on extrapole... Si on prend l'exemple des reptiles, qui n'est pas un vrai groupe phylogénétique, mais peu importe, l'ancienneté des reptiles, c'est 300 millions d'années. Donc c'est 7 millions de fois plus que ces 40 ans. Rien qu'en 40 ans, on a déjà vu des modifications. Alors en 300 millions d'années, ou même si vous prenez l'ancêtre commun des cétacés, qui est un mammifère terrestre, c'est 50 millions d'années. En 50 millions d'années, on peut avoir énormément de modifications. L'évolution, on la voit sous nos yeux.
Pour conclure en quelques mots, Jean-Baptiste André, est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là arrêter de parler de théorie de l'évolution, mais d'évolutionnisme comme un fait établi aujourd'hui scientifiquement?
Le degré de certitude d'une théorie, c'est quelque chose de quantitatif. Quand Darwin a élaboré en premier, j'étais pas dans sa tête, mais pour lui, c'était une théorie possible, mais pas certaine. Et plus on avance, plus elle devient certaine. À strictement parler, d'un point de vue philosophie des sciences, ça reste toujours une théorie. Mais elle devient de plus en plus certaine, c'est quantitatif. Donc j'ai pas vraiment de difficulté à parler de théorie de l'évolution, simplement le problème, c'est qu'il faut que les gens comprennent exactement ce qu'on veut dire.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste André, je rappelle que vous êtes évolutionniste, chercheur CNRS dans le département d'études cognitives à l'École normale supérieure.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.